Salut à tous et bienvenue dans le Poké Freak Show. Je me présente, je suis Zenigame et je serai l'animateur de cette toute nouvelle émission de Radio Kawa. Dans ce nouveau podcast, je vais vous faire découvrir des créatures exceptionnelles venant tout droit d'un monde parallèle et que nous appelons des Pokémon. Il y en a des gros, des petits, des mystérieux, des dangereux, des rigolos, des trop mignons et des puissants. Il y en a pour tous les goûts. C'est un large vestiaire rempli de secrets que la société japonaise Game Freak ne cesse de nous révéler. Bon, évidemment, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'est un Pokémon. Ces créatures de poche imaginées par un certain Satoshi Tajiri il y a plus de 20 ans sont très vite arrivées jusqu'à nos frontières. J'imagine du coup que vous connaissez déjà Pikachu, Dracaufeu, Lucario, Mew ou encore Noctali. Mais connaissez-vous Bruivern, Chenicel, Lumicanon, Rosabis ou encore Quanton ? Au total, il nous a été révélé 807 Pokémon, 941 si on compte les formes différentes. Et bon, que vous ayez découvert Pokémon en 2016 avec le grand été de Pokémon Go, ou il y a bien plus longtemps, au début des années 2000, voire même que vous êtes totalement étranger à la licence, vous avez forcément vos favoris. Des Pokémon que vous connaissez mieux que d'autres, et c'est normal. A l'inverse, il y en a aussi que vous détestez et dont vous ne comprenez pas vraiment leur existence. Et c'est normal aussi. Il suffit de voir toutes les vidéos YouTube qui vous proposent des tops de ceux qui sont considérés comme les pires Pokémon. Mais vous voulez un secret ? Il n'y a pas que vos favoris qui ont un véritable intérêt en fait. Chacun des 807 Pokémon a une petite histoire. Même ceux qui vous paraissent les plus insignifiants ou que vous détestez le plus ont quelque chose à vous raconter. Car une chose est à savoir sur les Pokémon, à leur échelle, ils sont chacun le reflet de notre monde à nous. Que ce soit par rapport à des animaux existants dans notre monde, des cultures, des légendes ou n'importe quel autre concept, tous les Pokémon y tiennent leur origine. Si bien que parler de chacun d'entre eux vous fera découvrir d'une part les us et coutumes d'un monde parallèle, mais aussi d'autre part tant de choses sur notre monde à nous, et c'est fascinant. Vous voulez découvrir leur histoire ? Ces petites choses qu'ils ont à nous apprendre sur nous ? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de grandes connaissances de l'univers pour bien comprendre le podcast. Vous êtes prêts donc ? Alors c'est parti, prenez vos sacs à dos et vos shorts, c'est parti pour le Poké Freak Show ! Et pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un Pokémon assez intéressant. Lorsqu'il a été révélé il y a 17 ans, il a vite été considéré comme le Pokémon le plus oubliable de tous, ce qui fait qu'aujourd'hui il est l'un de ceux qu'on oublie le moins. Un Pokémon issu de la deuxième vague de Pokémon révélés, appelé aussi Génération, qui brille par sa banalité et son inutilité. Mais ne vous y méprenez pas, pour lui ce n'est qu'une apparence. Cette petite boule jaune a beaucoup de choses à vous raconter. Donc pour cet épisode pilote, laissez-moi vous parler du Pokémon numéro 206, Insolurdo. Alors pour commencer, passons aux bases. Insolurdo est un Pokémon de type normal, issu de la deuxième génération, celle qui a été introduite en 2001 à travers les versions or et argent qui nous faisaient découvrir la région de Johto. Avec son 1m50 pour 14 kg, il ne possède ni pré-évolution, ni évolution. Donc là, si vous connaissez un minimum l'univers de Pokémon, vous devez vous dire « mais c'est totalement banal tout ça ». Vous auriez sans doute raison. Mais ça ne suffit pas pour lui donner le titre de Pokémon le plus oubliable de tous les temps. Car juste là, sa description ressemble trait pour trait à celle de Surfrousse et de Capumain, deux autres Pokémon de la deuxième génération de type normal et seuls dans leur lignée évolutive, bien que Capumain ait gagné une évolution par la suite. Alors pourquoi je consacre mon premier épisode à lui et pas à ces deux autres Pokémon ou à n'importe quel autre Pokémon ? Eh bien... voyons voir ce qu'il fait en plein combat. Attention, nous allons entrer dans des termes un peu techniques. Alors en stratégie Pokémon, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes liés au combat, Insolurdo n'a pas de stade de fou pour un Pokémon au stade final. À part à la rigueur les points de vie où il a 100, c'est pas du tout exceptionnel, sans pour autant être très faible. En revanche, en termes de capacité spéciale ou talent, il possède Sérénité comme Jirachi et Meloetta, deux Pokémon légendaires, qui lui permettent de doubler le pourcentage d'effet additionnel d'une attaque. Par exemple, un Pokémon touché par son attaque tonnerre aura deux fois plus de risque de finir paralysé. Il a également accès à Fuite, qui lui garantit une réussite au test de fuite à 100%, ce qui est toujours très utile. Et Phobique, qui lui augmente ses vitesses après une attaque ténèbre, insecte ou spectre. Au niveau des attaques par contre, c'est plus qu'acceptable puisqu'il a accès à Laser Glass et Tonnerre, ainsi que Piège de Roc. Bref, de ce côté, c'est pas dégueulasse sans pour autant être exceptionnel, juste au milieu. Et vous pouvez même retrouver de nombreuses vidéos YouTube de personnes qui tenteront de trouver un move pool stratégique acceptable pour ce petit Pokémon, bien qu'il soit bien évidemment dans le tiers PU, soit le tiers de stratégie le plus mauvais pour les Pokémon au stade final. Pardon ? Je vous ai complètement perdu ? Ok, bah grosso modo, Insolurdo n'est pas un Pokémon à envoyer sur un champ de bataille. Est-ce que ça veut dire qu'il se démarque ailleurs? C'est pas sûr. Depuis son introduction sur Or et Argent, un seul rodeau a une certaine réputation puisqu'il est connu pour posséder ce qu'on pourrait appeler une rareté abusée. En effet, là-bas, vous avez seulement 1% de chance de le croiser, et uniquement si vous avez le malheur de vous perdre dans l'entre-noir, soit une zone que peu de dresseurs fréquentent puisqu'il ne mène à rien. Et pire encore, c'est la seule zone de la région qui nécessite Flash, une capacité qu'un seul Pokémon peut apprendre dans Or et Argent. En tout cas, pour un Pokémon aussi faible, cette rareté est complètement improbable, et beaucoup de dresseurs peu renseignés sont donc passés à côté de lui. Et en vrai, même ceux le connaissant n'ont même pas pris la peine de le chercher. Bon, il est plus facile de l'avoir maintenant puisque, comme la plupart des Pokémon d'ancienne génération, il refait surface lors d'événements dans les jeux. Mais à chaque fois, on retrouve cette rareté forte et un taux de rencontre qui dépasse rarement les 5%. La seule exception étant la 3ème île des îles Séville dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille où on avait 100% de chance de le rencontrer. Mais les hautes herbes concernées étaient accessibles uniquement après avoir complété son Pokédex, donc bon. Donc voilà, nous avons parlé de sa faiblesse au combat et de sa rareté, ce qui est déjà pas mal. Pourtant, il ne s'agit même pas de son pire défaut, celui qui a créé sa réputation. Parce que son pire point faible, c'est... son physique. Bon, c'est un argument très subjectif, mais il est reconnu comme étant l'un des Pokémon les plus moches et bizarrement faits, avec entre autres Limonde et Seracrawl. Pour les personnes qui ne le voient pas, imaginez une espèce de boule jaune aplatie et allongée de 1m50 de longueur, de gros yeux fermés, une queue pointue, des petites ailes qui lui permettent même pas de voler et deux pics bleus sur la bouche. Selon le Pokédex, il serait dans la famille des serpents comme Abo, mais c'en est clairement pas un. C'est une créature qui ressemble à rien du tout du règne animal, mais semble sortie de l'imagination d'un développeur qui est peut-être allé un peu trop loin. Pourquoi ces ailes s'il n'est pas de type vol? Pourquoi cette queue s'il n'est pas de type sol? Et pourquoi cette bouche et ces pics qui peuvent paraître venimeux alors qu'il n'est même pas non plus de type poison? Rien dans ses attaques ne justifie tout ça si ce n'est son attaque tunnel. Mais sinon, rien du tout. Le Pokédex essaye tout de même, et tant bien que mal, de nous donner des explications pour bien comprendre cette créature. Donc ce que je vous propose, c'est un petit florilège de ce qu'on peut trouver dans les descriptions de chaque jeu. Dans le Dex de Or, on nous dit que sa queue lui sert à creuser à reculons. Une queue qui est d'ailleurs une perceuse selon Ruby et Saphir. Il peut également enfouir son nid sous terre selon Émeraude. Pour ses ailes, Pokémon Argent nous dit qu'il peut l'éviter, mais Diamant et Perle nous donnent une explication supplémentaire. Il sait à peine voler. Enfin, Pokémon Crystal rajoute qu'il se cache au fin fond des grottes et peut rester immobile pendant très longtemps. Ce qui est donc à retenir dans tout ça, c'est que c'est un Pokémon qui vit dans les cavernes, mais surtout sous le sol, et que ses ailes lui servent juste à planer, sans plus. De plus, dans plusieurs Pokédex, on retrouve le mot-clé « s'enfuir » qui concorde bien avec ses talents fuite et phobique. Mais fuir quoi? Et pourquoi? Et c'est là où apparaît la description de Pokémon Ultra Lune qui donne une finalité à tous ces mystères. Quand il aperçoit la silhouette d'un humain, il s'enfuit en creusant un trou avec sa queue. Quiconque en voit un peut s'estimer chanceux. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi ce Pokémon est aussi rare. Parce que Game Freak nous a offert un Pokémon peureux qui fuit les humains, donc finalement très rare, et dont l'instinct de survie fait qu'il s'échappe dès qu'il en voit un. Et contrairement à un Rattata par exemple, il a les moyens de se cacher très vite. Mais bon, on a certes réussi à relier tout ça dans le jeu, mais beaucoup de questions persistent. Déjà, question simple, pourquoi Game Freak nous a offert un tel Pokémon qui va à l'encontre même du principe du jeu? Pourquoi malgré sa rareté, il ne peut pas évoluer? Et puis nous avons toujours pas trouvé d'où venait ce design aussi insolite. Parce que pour le moment, ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un Pokémon très mauvais et inutile en combat, qui est presque introuvable parce qu'il se cache, soit par instinct de survie, soit par honte de sa laideur. En fait, on a l'impression que ce concept de Pokémon va à l'encontre même de tout ce qui existe dans le jeu. Rien que ça. Du coup, pour essayer de comprendre le sens de l'existence de ce Pokémon, je vous propose de nous pencher sur ses origines. Donc comme je l'ai dit plus tôt, il est difficile de trouver à quoi un seul rodeau pourrait correspondre dans le règne animal. Quand nous essayons de chercher les origines de ce Pokémon hors de l'ordinaire, nous tombons vite sur un os. Le Pokédex dit que c'est un serpent, mais il ne fait qu'1m50 de long. Ça ressemble vaguement à une limande, mais ça possède des ailes. Peut-être un ver géant avec sa queue qui l'aide à creuser? Oui, mais alors pourquoi cette forme et cette tête? Le physique de ce Pokémon est un vrai casse-tête, comme un match-up de plusieurs bonnes idées qui en donnent finalement une très mauvaise, et il est impossible de l'associer à quoi que ce soit concrètement. Certains pensent tout de même qu'il pourrait s'inspirer du serpent à plumes, une divinité mexicaine, ou de son incarnation le Quetzalcoatl. Cela pourrait ainsi expliquer pourquoi il s'agit d'un serpent qui possède des ailes. Et d'ailleurs, la majorité des fanarts qui imaginent l'évolution de ce petit serpent vont dans ce sens. Mais on en est quand même bien loin, cela n'explique pas par exemple sa queue perceuse ou rien que sa petite taille pour un serpent. Et de toute façon, on a déjà Xatu dans cette génération qui fait référence à cette mythologie. Donc cette piste est à oublier. Du coup, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'a effectivement aucune origine ? Eh bien non, croyez-le ou non, mais un Solordo a bel et bien une origine précise et qui fait sens. Et pour trouver cette origine, jetons un œil sur son étymologie. Si en France et en allemand, les traducteurs ont préféré se moquer de lui avec lourdo en français ou dub en allemand pour demi-sel qui veut dire bête, en japonais il l'associe à autre chose, puisque Nokochi, son nom japonais, est l'anagramme de Tsukinoko qui désigne une espèce de cryptide japonaise. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'un cryptide ? Un cryptide, c'est un animal, une plante ou n'importe quel être vivant dont une partie de la population suppose son existence, et dont nous n'avons aucune preuve concrète qu'il existe, si ce n'est des témoignages. Nous pouvons citer parmi les plus célèbres Nessie, le Yeti, le Kraken, ou même le panda il y a encore 150 ans. Et donc il s'agit aussi du Tsukinoko, une créature japonaise qui pourrait bien exister selon certains témoignages, mais dont nous n'avons aucune preuve de son existence. À ne pas confondre cela dit avec les yokai japonais qui sont eux plus des croyances mythologiques. Bien que ça n'a pas empêché le jeu Yokai Watch de faire une créature inspirée du Tsukinoko. Donc voilà, maintenant que cette précision est faite, revenons à nos Watwat. Le Tsukinoko donc, dont le nom veut dire littéralement « enfant du marteau », et qui est aussi appelé Bachiebi dans le nord du Japon, pour serpent vengeur, est donc une créature japonaise de forme courte et plate, avec une tête de vipère et un ventre beaucoup plus grand que sa tête. S'il possède des venins et pourrait même posséder des cornes selon plusieurs versions, certaines légendes racontent qu'il serait également capable de parler et aurait un goût prononcé pour l'alcool. Il peut se déplacer, selon des théories, soit comme un ver, soit en mangeant sa queue et en roulant. C'est souvent cette créature-là, d'ailleurs, qui est associée au symbole de l'Ouroboros. Il possède également un autre moyen de locomotion qui est en sautant, puis en planant sur quelques mètres. Tiens donc, planer, ça ne vous rappelle rien ? Tout semble concorder pour que l'origine de un Solordo soit effectivement cette créature mythique japonaise. En plus de son physique ingrat et absurde, cette description justifie également ses petites ailes qui l'aident à planer. Et même s'il a troqué son venin pour un type normal, il reste tout de même ses crocs qui auraient pu jadis lui servir de dard. En vrai, si un Solordo est, comme je l'ai dit plus tôt, un match-up de plusieurs créatures imaginaires, c'est aussi et surtout parce qu'ils ont mélangé la plupart des idées qu'on a de lui. Et même son goût prononcé pour l'alcool, où on le retrouve dans la licence Donjon Mystère. Mais la comparaison ne s'arrête pas seulement au physique. En fait, en me renseignant sur cette créature, je me suis rendu compte qu'au Japon, le Tsukinoko est très connu partout dans le pays et a une réputation de créature qui se cache facilement des humains. Un peu l'équivalent de notre Dayu National quoi, sauf que ce petit serpent est carrément un mème. Sérieusement, tapez Tsukinoko Real sur Google, un nouveau monde va s'ouvrir à vous. En bref, c'est un animal, les japonais sont sûrs qu'il existe, mais personne n'a de vraies preuves de son existence. Ni de sa non-existence cela dit. Les histoires japonaises font mention de cet animal depuis les écrits datant de l'an 712. Tout ce qu'on sait, c'est que cette créature pourrait se cacher principalement dans les grottes dans le Kansai, la région de Kyoto et Osaka qui a inspiré Johto. Les grottes de Johto... Tiens donc. Tout ça pour dire que Game Freak n'a pas voulu uniquement faire un Pokémon s'inspirant du Tsukinoko dans le jeu. En fait, tout concorde pour penser qu'ils ont voulu carrément mettre le Tsukinoko dans leur jeu. Ils ont décidé que c'était ni un animal, ni un cryptide, mais un Pokémon. Ou alors c'est l'inverse, et vu qu'il n'évolue pas, il peut ne pas s'agir d'un Pokémon, mais d'un animal qui a été ajouté dans le jeu, peu importe. Mais en tous les cas, tout a été remis dessus, que ce soit son habitat, son physique, et aussi et surtout sa rareté, puisque, que ce soit dans le jeu comme dans la vraie vie, nous avons une chance infime d'en trouver un, au point de complètement remettre en question son existence. S'il existe, bien sûr. Mais du coup, vous me poserez la question, pourquoi avoir voulu à tout prix mettre un cryptide aussi banal dans le jeu ? Pourquoi un Pokémon dont le but est de renverser le lien entre la force et la rareté d'un Pokémon ? Quel intérêt ? Et moi, je vous poserai alors cette question. Et pourquoi pas ? Est-ce que la rareté d'un Pokémon doit forcément être proportionnelle à la puissance ? D'autant que, je le rappelle, Nintendo est basé à Kyoto, qui est dans le Kansai, donc peut-être qu'ils ont voulu faire référence à leur culture locale. Et en fait, cette question va même plus loin. Finalement, nous jouons un Pokémon pour les combats ou la collection ? Et finalement, cette question nous amène à LA question de la franchise. Quel est le but de Pokémon ? Cette analyse de un Solordo va beaucoup trop loin... Nous avons évidemment un élément de réponse à cette question en allant dans les origines de Pokémon. Il est en effet pas difficile de trouver que le jeu s'inspire principalement de l'amour de Satoshi Tajiri pour la collection des insectes. Il les collectionnait tous et développait de nouvelles techniques pour en capturer plus, et même des rares. Pas forcément les plus puissantes, juste les plus rares. C'est la volonté de collection qui a permis de créer plus tard le jeu Pocket Monster Rouge et Vert en 1996, avec tout ce qui a suivi depuis 22 ans. Dans ce jeu, il nous offre un terrain, des moyens de capture, les Pokéballs bien sûr, mais aussi les cannes à pêche, les Pokéflutes, les machines pour transformer les fossiles, etc., etc. Et le tout en nous baignant dans un seul jingle, attrapez-les tous. Pokémon ! Bon, bien sûr, il est très facile de dire ça aujourd'hui puisque plus de 20 ans après, le système de jeu et l'évolution de son metagame ont quand même bien changé. La collection garde tout de même une grosse part du jeu, mais aujourd'hui, on ne joue plus vraiment à Pokémon pour tous les attraper, ou alors ce n'est pas le but final. En fait, le combat a quand même bien pris le pas sur la capture, et les Pokémon créés aujourd'hui sont surtout là pour enrichir cet aspect du jeu. Mais ça n'a pas toujours été le cas en fait. Imaginez, un Pokémon dont l'unique but est de rendre la capture de tous les Pokémon plus compliquée, pour donner des bâtons dans les roues aux joueurs qui veulent compléter leur Pokédex. Pour donner plus de difficultés quoi. Tu fouilles l'entre-noir pendant des heures en espérant croiser ce petit Pokémon mystérieux, comme de nombreux Japonais ont passé des heures à fouiller les grottes du Kansai dans notre univers à nous. Et si au bout de plusieurs heures tu finis par le trouver et entendre le petit bruit strident de cette petite boule jaune, tu peux te dire avec fierté que tu as réussi, que tu fais face à une créature que les locaux recherchent en vain depuis l'an 712. Voilà une belle quête annexe que nous propose Or et Argent, celle de la recherche d'une créature dont l'existence est complètement remise en question. C'est excitant, vous ne trouvez pas? Non? Bon ben, deux choses l'une. Premièrement, j'espère que du coup vous ne partez jamais à la recherche des Pokémon chromatiques, parce que c'est exactement la même chose en fait. Pour rappel, les Pokémon chromatiques sont des versions d'un Pokémon possédant des couleurs différentes, comme un peu les albinos dans notre monde à nous, et dont on a théoriquement une chance sur 8000 d'en trouver, ce qui est encore pire que le 1% d'un seul rodo. C'est par exemple un Dracaufeu noir, un Evoli blanc, un Léviator rouge, même si pour celui-là c'est un peu spécial, ou pour donner le premier que j'ai rencontré, un Chenipan jaune. Et le fait que la chasse de ces versions-là existe prouve en quelque sorte que la capture de Pokémon rares, pas forcément forts en combat, mais juste rares, reste à l'ordre du jour chez certains joueurs, donc le concept que propose un seul rodo a finalement bien sa place. Voilà, vous venez donc d'écouter la conclusion que j'avais prévue au départ pour un seul rodo. Je croyais conclure maintenant, mais finalement je pense qu'un autre aspect de ce Pokémon est également à mettre en avant. Parce que je l'ai dit, le but de Pokémon, c'est de tous les capturer ou faire des combats Pokémon. Mais l'une des grosses forces de cet univers, c'est qu'on peut ne pas se limiter à ces deux modes de jeu seulement. Dans le jeu en lui-même, on peut aussi vouloir juste faire le scénario du jeu, faire les concours de beauté dans certaines versions, ou, comme je l'ai suggéré plus tôt, partir à la chasse aux chromatiques. Si vous trouvez le jeu trop limité, vous pouvez juste vouloir tous les dessiner. Ou tout simplement écrire de longues fictions, lancer des concours de celui que vous aimez le plus, imaginer des concepts qui changent totalement le jeu, comme une version randomisée de la version Rouge Feu et Terre-Feuille par exemple, ou vous lancer dans de longues théories comme celle-ci qui parle de plusieurs aspects différents du jeu. Le sujet est très vaste, on va pas se le mentir. En fait, vous savez quoi? Pour ce premier épisode, je vais vous raconter ma vie. Désolé. J'ai donc découvert le jeu Pokémon il y a désormais 18 ans, et c'est devenu instantanément mon univers de jeux vidéo préféré. Et ça l'est toujours. Très longtemps, je me suis demandé pourquoi, en fait. Pourquoi j'aimais autant tout mon cœur cette franchise? J'ai voulu toucher à tout pour comprendre, la capture de Pokémon ou de la version chromatique, les tournois stratégiques, les fictions, les fanarts, le jeu de cartes mais également l'expérience que me proposait Pokémon Go ou Donjon Mystère. Et même si j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans chacune de ces activités, il manquait un truc. Et c'est là que je me suis rendu compte que si j'aime Pokémon, c'est pas grâce à un seul aspect du jeu, mais c'est parce qu'il m'a permis de toucher à tous ces aspects si éloignés. Parce qu'à mes yeux, Pokémon est avant tout le plus grand open world de tous les temps. Non, je ne parle pas de jeux en eux-mêmes qui sont très bien, mais qui restent quand même très limités. Je parle d'un open world extra-diégétique, qui va au-delà du jeu. Pokémon a un potentiel incroyable d'activités possibles pour une fanbase grâce à ses petites créatures différentes. On aura envie de les capturer ou de les faire combattre, mais certains auront forcément envie de faire d'autres activités avec, et c'est possible. On les dessine, compare, théorise, cherche à comprendre leur intérêt, et ce même dans des événements qui dépassent complètement Game Freaks. Ou tout simplement on les aime très profondément ou on les déteste et on aime expliquer pourquoi. Alors que ce sont au final que des amas de 1 et de 0 dans une petite cartouche. Et je me trompe peut-être, mais je crois qu'aucun autre jeu vidéo n'a su créer quelque chose de si grand. Et en fait, le Pokémon qui, à mon sens, symbolise le mieux tout ça, tout ce concept extra-diégétique que nous propose cet univers incroyable qui l'améliore, et ben justement, c'est lui, c'est un seul rodo. Au final, un seul rodo, c'est quoi? Un Pokémon très banal, sans intérêt, aucune particularité notable, personne n'aura envie de le prendre dans son équipe et on ne le verra jamais dans un conseil des quatre. Une petite créature fébrile qui préfère se faire oublier au fin fond de sa grotte. Et pourtant, on parle de lui dans les quatre coins d'internet. Déjà, comme je l'ai dit, on le déteste alors que ce pauvre petit amas de pixels n'a rien demandé. Mais surtout, et là on rejoint la comparaison avec le Tsukinoko, on théorise beaucoup dessus. En effet, depuis toujours, beaucoup de légendes ont tourné autour de ce cryptide japonais. On dit qu'il serait capable de sauter sur de longues distances, de parler avec une tendance à mentir, il serait potentiellement alcoolique, aurait des crochets et un puissant venin, ainsi que des cornes, et pourrait être l'origine du symbole de l'Ouroboros. Certains vont même jusqu'à se persuader qu'il contrôle toute la société humaine, du même genre que les reptiliens. Bref, le fait que cette créature soit introuvable permet de supposer des choses incroyables pour justifier son côté légendaire, là où la force brute suffisait pour le Kraken ou Bigfoot. On n'en a jamais trouvé, donc qui peut contredire ces légendes? Et de son côté, et de par sa rareté abusée par un Pokémon aussi faible, un seul ourdeau a obtenu également cet attrait. Quand on consulte les forums de fans qui discutaient de ce Pokémon au début des années 2000, beaucoup supposaient que ce Pokémon avait forcément des pouvoirs insoupçonnés, qui pouvait évoluer en quelque chose de bien plus puissant, cacher sans doute ses meilleurs stats du jeu, ou qu'il avait accès à des attaques dévastatrices. Bref, on essaie de justifier sa rareté en pensant que ses caractéristiques sont forcément proportionnelles, qu'elle a forcément un sens, alors qu'en fait, ben non. Malgré tout, ça reste un Pokémon de type normal sans évolution, sans attaque incroyable ni stats de folie, et même le Pokédex le décrit comme un Pokémon banal. Et pourtant, il aura, depuis sa création, beaucoup fait réagir Internet. Et il continue de faire partie des Pokémon dont on souhaite le plus une évolution, juste par compassion, pour qu'il puisse avoir un intérêt en fait. D'ailleurs, à chaque génération révélée, on spécule sur qui sera enfin l'évolution d'un seul ourdeau, le dernier en date de la 7ème génération ayant été Drayeul, Pokémon qui d'ailleurs s'inspire aussi d'un cryptide très célèbre. Tapez son nom sur Google, vous comprendrez direct. Un seul ourdeau est donc un Pokémon qui, au premier abord, n'a rien d'exceptionnel. Mais tout son intérêt a été créé par les joueurs. Même si Game Freak a voulu en faire un Pokémon à capture, le public en a zidé autrement et a voulu en faire quelque chose de plus gros. Un mème qui décrit une petite chose sans défense qui n'a pas été gâtée par la nature, que tout le monde déteste, mais dont le monde entier espère qu'il aura droit à sa réparation, car malgré tous ses défauts, il reste un Pokémon valide. Bref, un seul ourdeau est le Pokémon extra-diégétique, et c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà, j'espère que cette analyse d'un seul ourdeau vous aura plu et vous aura fait comprendre qu'il n'est pas un Pokémon si inutile et banal que ça. En tout cas, le pari est réussi pour Game Freak puisque, malgré une dizaine d'années dans l'anonymat, un seul ourdeau est clairement revenu dans les devants de la scène parmi les Pokémon qu'on se rappelle le plus chez les fans, et on continue encore d'espérer qu'il possède bien un pouvoir inavoué, si bien qu'il reste toujours parmi les Pokémon dont on espère le plus une méga évolution. Mais un seul ourdeau n'est pas le seul dans ce cas, beaucoup d'autres Pokémon peuvent sembler avoir été condamnés à être de simples créatures sans histoire pour toujours. Et justement, le but de cette émission sera de vous prouver que toutes ces créatures, tous ces Pokémon qui au départ devaient juste être des cibles dans le jeu, sont finalement bien plus que ça, et méritent toute votre attention, malgré leur laideur ou leur inutilité. Bref, bienvenue dans le Pokéfreak Show. Et voilà, cet épisode pilote s'achève, mais la série continue. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'émission sur iTunes ou n'importe quelle application de podcast pour vous tenir au courant de la suite. Je voudrais bien évidemment remercier Radio Kawa pour la confiance qu'ils ont portée à cette nouvelle émission et l'aide apportée ces dernières semaines. Si vous ne les connaissez pas trop, je vous invite bien évidemment à aller voir ce qu'ils font en attendant les autres épisodes. Normalement, les épisodes sortiront tous les 15 jours, mais exceptionnellement, vous aurez le second épisode la semaine prochaine. Dans ce futur épisode, nous parlerons d'un autre Pokémon avec un potentiel incroyable, mais qui n'est finalement pas du tout apprécié par le grand public. Et j'espère que je réussirai à vous faire changer d'avis sur son compte. Si vous voulez m'envoyer des remarques sur un seul ourdeau ou si vous connaissez des anecdotes assez intéressantes sur un autre Pokémon, vous pouvez me les envoyer à l'adresse mail publiée en commentaire de l'épisode. De même, vous pouvez également me suivre sur Twitter pour pouvoir suivre l'avancée du podcast et recevoir parfois quelques anecdotes sympas sur l'univers de Pokémon. D'autant que, je sais pas si vous avez vu, mais un nouveau spécimen a été révélé il y a pas longtemps, c'est fou quoi. Dans tous les cas, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao !